Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Nous avons vu que le parler en langue, pratiqué de nos jours dans certaines assemblées, n'a rien à voir avec le miracle du jour de la Pentecôte qui s'est déroulé en l'an 31 de notre ère. Pierre se mit à parler à la multitude devant lui. La foule était composée de gens de diverses nationalités, parlant des langues différentes, et chacun entendit Pierre dans sa propre langue d'origine. Tous entendaient parler en même temps la langue de leur région. Ce que Pierre disait était donc très compréhensible pour chacun de ces Juifs, sans oublier tous ces prosélytes, c'est-à-dire ces païens d'origines étrangères, qui avaient adopté le culte et les croyances juives, et qui se trouvaient à Jérusalem pour observer la fête de la moisson. Ce miracle étonnant se passa dans le calme et la dignité. Les Parthes entendaient Pierre en Parthe, les Égyptiens en Égyptien, tous les autres l'entendaient au même moment et en même temps, mais chacun dans sa propre langue. Le miracle se situait donc entre la bouche de l'orateur et l'oreille des auditeurs. Point n'était besoin d'un interprète pour traduire ce qui se disait, car tous comprenaient clairement le message. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul parle de ce sujet, et nous allons voir qu'il s'agit encore et toujours de langues connues, et non de charabia incompréhensible à tous. Paul écrit « Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le parler en langue est un don de moindre importance que le don de prophétie. Le don de prophétie permet de prophétiser ou de prononcer un sermon inspiré par Dieu, que tous peuvent comprendre. Mais prenons l'exemple suivant. Si un pasteur, qui parle uniquement le français, voyage et s'adresse à une congrégation qui ne comprend pas le français, il s'adresse automatiquement à une audience incapable de le comprendre. Seul Dieu, les anges et lui comprennent ce qu'il dit, mais pour ceux qui lui font face, il dit des mystères, des choses qu'ils ne peuvent saisir. Parler à ses auditeurs dans une langue qu'ils ne comprennent pas ne présente aucun intérêt pour ceux-ci. Paul poursuit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Paul aurait aimé que tous, à Corinthe, puissent parler en langue étrangère, mais il préférait que tous soient capables d'enseigner la parole de Dieu sous l'inspiration divine. S'adresser à des personnes dans une langue inconnue pour elles ne sert à rien, à moins d'avoir un interprète, et dans ce cas seulement, cela peut être profitable et enrichissant. Paul l'explique au verset 6 à 9. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il s'agit ici de discours d'inspiration divine que Paul tiendrait aux Corinthiens dans une langue intelligible sur les Écritures. Tout comme personne ne va au concert pour entendre de fausses notes, pourquoi les chrétiens se réuniraient-ils pour entendre un verbiage sans queue ni tête? Remarquez ce que Paul ajoute. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Paul se réfère bien aux langues parlées au sein des diverses nations du monde. Il est cependant intéressant de noter que de nombreuses versions ajoutent le mot « intelligible ». Il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ce mot « intelligible » est mentionné dans la version synodale et dans celle du chanoine Crampon. D'autres traduisent par « il n'en est aucune qui ne soit dépourvue de sens ». Or, ce qui se passe dans les assemblées où l'on parle soi-disant en langue, c'est que personne ne comprend ce qui se dit, et celle qui parle en langue ne comprend rien non plus à ce qu'elle raconte. Faut-il s'étonner que Paul ajoute « Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Autrement dit, si un orateur parle dans une langue incompréhensible pour ses auditeurs, ils seront des barbares les uns pour les autres. Paul continue « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Il déclare donc que s'il prie dans une langue étrangère, alors le sens qu'il donne à sa prière et toute l'intelligence qu'il y met restent stériles pour ceux qui écoutent sans comprendre. Il offre ensuite la solution. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? La Bible nous enseigne que la plupart des prières devraient se faire en privé. Elles sont un échange entre Dieu et celui qui prie, peu importe le langage, puisque Dieu les comprend tous. Toutefois, si la prière est publique, comme au cours d'une assemblée religieuse, elle doit servir à l'édification de tous et pas seulement de celui qui la prononce. Si celui-ci s'exprime dans une langue inconnue de son auditoire, l'assemblée n'en tirera aucun profit. Comment les auditeurs pourraient-ils marquer leur accord sur ce qui est dit s'ils n'ont rien compris? Et Paul décrit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois, au plus, parle, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Si quelqu'un parle dans une langue étrangère, il est nécessaire qu'un interprète traduise son message. De toute façon, il faut limiter à deux ou trois le nombre des orateurs qui, au cours d'une même assemblée, parlent en langue étrangère. S'il n'y a point d'interprète, alors qu'on se taise. Dans le verset suivant, Paul explique la conduite que doivent avoir ceux qui livrent des messages inspirés afin qu'aucune confusion ne règne dans les assemblées. Il poursuit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. » Lorsque Dieu se sert d'un homme comme porte-parole pour édifier une assemblée, cet homme, bien qu'inspiré de Dieu, garde le contrôle de ses pensées et de lui-même. L'Esprit de Dieu conduit, guide, mais il ne contraint pas, il ne force pas. Il n'est donc pas question d'être saisi par l'Esprit, de s'abandonner à une force extérieure, de se rouler par terre, d'entrer en transe. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. La puissance qui saisit et contrôle totalement un être humain est démoniaque. En voici un exemple. En s'adressant à Jésus, le père d'un enfant dit « J'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. » Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Nous voyons donc que ce sont les démons qui créent la confusion. Dieu, au contraire, est le dispensateur du calme et de la paix. Paul donne ensuite une instruction claire, que beaucoup écartent de nos jours et qui pourtant est d'origine divine. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Nous voyons de plus en plus de femmes prendre la parole lors des assemblées religieuses pour enseigner. Certains prétendent que les temps ont changé. C'est ainsi que dans ces sessions de soi-disant parler en langue, des femmes se mettent aussi à parler. Elles ne peuvent pas être guidées par l'Esprit de Dieu, puisque l'apôtre Paul écrit, sous l'inspiration divine, qu'il ne leur est pas permis de parler dans les assemblées. Lorsque nous examinons le 14e chapitre de la lettre que Paul adresse aux Corinthiens, il est évident que le parler en langue se fait dans une langue vivante, une langue étrangère. Si un orateur d'expression étrangère s'adresse à une congrégation, il faut qu'il ait un interprète. Il ne peut y avoir que deux ou trois orateurs de langues différentes, chacun parlant à son tour. Les assemblées doivent être parfaitement ordonnées. Il n'est donc absolument pas question d'entrer en transe, de pousser des cris d'extase ou de ravissement par l'esprit. Les femmes n'ont pas la permission de parler pendant les assemblées. Il ne peut y avoir de discussion à ce sujet puisque c'est la volonté de Dieu. Dieu nous enseigne que Satan a son ministère. Il se déguise en ange de lumière. Il est l'auteur de contrefaçons dont l'origine appartient au domaine spirituel comme les dons spirituels. C'est pourquoi Dieu met en garde. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ceux qui participent à des sessions de parler en langue n'éprouvent pas les esprits et ne se contrôlent plus. Combien se sont interrogés sur l'esprit qui les envahissait afin de savoir si c'est un esprit de Dieu ou de démon? Bien peu, je suppose. Les avertissements de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Lisons ce qu'il nous enseigne par l'apôtre Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. N'oubliez pas que la Bible appelle Satan le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Lui et ses démons influencent donc l'esprit des hommes, d'autant plus si, consciemment ou non, ils se soumettent à eux. Satan a sous son autorité des êtres spirituels qui sont des esprits de haut niveau, sans compter les démons, ces esprits méchants et pervers. Il a entraîné avec lui un tiers des anges. L'apôtre Pierre nous avertit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Les chrétiens doivent lutter impérativement contre tout ce qui pourrait être une menace pour eux. Comment peut-on résister si l'on se soumet à l'influence du premier esprit venu? Si certains se laissent être entraînés à parler en soi-disant langue, c'est parce qu'ils se sentent bien au sein de ces groupes, croient avoir de l'importance et y vivre des expériences merveilleuses. Mais ce n'est pas là agir avec discernement. Éprouvez donc les esprits et restez toujours sur vos gardes pour éviter de vous éloigner de l'enseignement précis des Écritures. Tout ce qui vous pousse à vivre hors de tout ou partie de la vérité n'est pas de Dieu.